France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h20, après 6 semaines de confinement, vous vous êtes peut-être rendu compte de changements dans votre comportement, de choses agréables ou désagréables dans vos pensées ou vos relations aux autres. Le coronavirus nous met à rude épreuve et certains chercheurs tentent de le modéliser. Bonjour Christian Clos.
Bonjour.
Vous êtes explorateur, vous avez traversé les milieux les plus extrêmes de la planète pour étudier les ressources de notre corps, mais aussi nos capacités d'adaptation. Et vous êtes également le directeur d'un groupe de recherche, le Human Adaptation Institute. Vous avez lancé une étude au début de ce confinement pour connaître les effets de l'isolement sur l'être humain. La crise que nous vivons actuellement est inédite. Pour vous, c'est un objet d'étude exceptionnel.
Oui, alors nous, on travaille spécifiquement sur l'adaptation, comment est-ce qu'on arrive à dépasser une situation, puis à créer son futur surtout, et c'est vrai que cette situation, malheureusement, mais pour nous, effectivement, est une manière d'observer pour une fois, pendant les évolutions, ce qui se passe, et ça doit être très intéressant, oui.
Mais pendant les évolutions, c'est important de souligner, là, ça se passe en temps réel.
C'est ça, on a trop souvent de données sur des personnes qui racontent ce qu'ils ont vécu, ce qui sont malheureusement déjà un peu modifiés par rapport à la réalité. Là, on peut suivre semaine après semaine l'évolution des participants à l'étude et des citoyens français et françaises. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant, oui.
Alors je le disais, ça nous fait tous quelque chose, cette crise et surtout ce confinement. Est-ce qu'il y a des grands traits communs qu'on peut en tirer? Est-ce que l'humain réagit toujours de la même façon? Est-ce qu'il traverse les mêmes émotions?
Alors, globalement, oui, à des vitesses différentes. On est tous à peu près pris par les choses de manière similaire au début, avec des formes d'euphorie, de questionnement, avec des changements. Et puis, petit à petit, on commence à réaliser que les choses vont durer. Donc là, on a clairement, par exemple, une dégradation du sommeil qui est en baisse. On a plusieurs, un gros pourcentage de personnes qui ont leur sommeil qui se dégrade. Plus de 30% ont des sommeils très mauvais, très saccadés. Et ça, c'est un signe qui est important. On a aussi une perte de relations. Les gens commencent à sentir des difficultés de relations personnelles avec les autres. Et puis on a une petite baisse, ce qui est assez surprenant et ce qui montre bien que ça commence à durer, de créativité, d'envie de créer des choses, de mettre en place des systèmes. Là, on commence à sentir une grosse lassitude.
Pendant les périodes de crise, c'est l'instinct ou le cerveau, la raison qui nous guide ?
Alors l'instinct vient du cerveau, donc c'est toujours le cerveau quand même, mais c'est effectivement au début on est désemparé, c'est-à-dire qu'on est en stupeur, on se laisse un peu guider par des émotions qui sont profondes et qu'on maîtrise mal. Puis normalement petit à petit on commence à passer par des phases qui vont être d'espoir, désespoir. Surtout quand on connaît pas la durée d'une situation. Alors là on l'a un petit peu connu avec le 11 mai, ça a un petit peu rassuré les gens de se dire ok, mais il y a une vraie confusion aujourd'hui de se dire le déconfinement c'est la fin de l'histoire, ce qui n'est pas du tout le cas. Et j'ai peur, moi, de voir une sorte de déception parmi les Françaises et les Français, de se dire « mince, en fait, c'est pas fini en mai ».
Si on nous ouvrait le cerveau, est-ce qu'on verrait physiologiquement des traces de ce changement, des traces de cette crise qui nous arrive et qu'on subit ?
Oui, de manière certaine. On peut malheureusement pas le faire. On n'a pas pu passer les gens en machine IRM. Mais clairement, on l'a vu, nous, sur une trentaine de jours de conditions difficiles, on voit des évolutions dans le cerveau. En l'occurrence, vu la difficulté, vu l'impact de cette situation, assurément, chez certaines personnes, en tout cas, on verrait des évolutions en création ou diminution de masse. Oui.
Face à une crise d'une telle ampleur, à ce point sidérante, l'humain est toujours capable de s'adapter. Il n'y a pas de limite à notre adaptation?
Alors, en tant que groupe, en tant qu'espèce, on va dire, non, il y a très très peu de limites. On est quand même assez adaptable. C'est ce qui a permis à l'humain d'évoluer dans des conditions hallucinantes et de vivre sur tous les types de territoires, ce qui est quasiment la seule espèce à savoir le faire, à part les insectes. Maintenant, il y a quand même des limites en tant qu'individu. On voit bien en ce moment que cette situation dépasse largement la compréhension, la capacité de voir ce qui se passe de beaucoup de monde. Et on a des réactions comme si c'était une situation un peu normale, qui était juste un peu différente. On voit les gens qui s'énervent, qui sont en colère contre la situation, ce qui n'est pas forcément anormal. Mais contre qui diriger la colère? Le problème, c'est que le virus ne peut pas recevoir cette colère, donc on la dirige soit vers des gouvernements, soit vers nos proches, soit vers... on est un peu démunis par rapport à ça. Donc non, on voit arriver là les limites de notre capacité à comprendre cette situation.
Est-ce qu'il y a des facteurs qui changent la donne, l'âge, le sexe ou la société dans laquelle on vit?
Alors, pour l'instant, c'est difficile à dire. On sait quand même que les personnes qui avaient l'habitude de très bien résister, de finalement ne jamais avoir trop de problèmes, puis ça se passait assez bien, peuvent être assez démunies dans une situation où tout d'un coup, ils n'ont plus la maîtrise. Ils ne sont plus décideurs de la situation. C'est très difficile pour ces personnes. Là où des personnes qui avaient un peu plus l'habitude de jongler, de louvoyer dans les situations, finalement, le font encore dans cette situation-là. On peut pas encore dire aujourd'hui, c'est trop tôt dans les études, s'il y a des différences, par exemple, de sexe, mais soyons très clairs, les femmes, les hommes ont des capacités extraordinaires, les unes comme les autres, et je crois que c'est pas tellement une question de sexe, c'est vraiment une question de qui a à un moment donné su dépasser des situations. Et là-dessus, c'est vrai que les femmes ont malheureusement encore dans nos sociétés trop souvent été plus confrontées à des difficultés que les hommes.
Alors, ce que j'aime bien aussi dans votre propos, c'est que vous nous dites qu'il faut développer notre curiosité. Ça, c'est un point important, on le fait pas assez. Alors, pourquoi d'abord et comment faire ?
Alors, deux choses, le cerveau, quand vous êtes curieux, vous allez faire travailler des zones du cerveau différentes que celles que vous faites travailler habituellement, parce que vous allez vous intéresser à des choses nouvelles, et donc forcément, c'est des zones différentes du cerveau qui se mettent en œuvre, soit parce que vous faites un jour de la musique et le lendemain vous faites des maths, et c'est pas les mêmes zones qui travaillent. Donc il faut vraiment essayer de faire des choses très nouvelles. Et vraiment, j'insiste sur le mot nouveau, parce que si vous êtes très bon en mathématiques et que vous commencez un nouveau calcul très dur, c'est toujours la même zone du cerveau qui travaille. Alors que si vous commencez à faire quelque chose de très différent, bah tout d'un coup, il y a des zones nouvelles, il y a des connexions qui peuvent se créer, et là, vous développez réellement votre cerveau. C'est extrêmement important en temps de crise, parce que c'est ça qui va donner tout d'un coup une nouvelle ressource, une nouvelle manière de créer des connexions qu'on n'avait pas imaginées, de mettre ensemble des éléments, et tout d'un coup, il y a une solution qui apparaît, qui n'était pas du tout présente avant.
Et comment on peut faire pour développer sa curiosité ? Ça s'apprend pas à l'école,
Non, ça s'apprend très peu à l'école, malheureusement, c'est pas encore le cas, ça va changer, j'en suis sûr, mais aujourd'hui, malheureusement, pour les personnes qui n'ont pas facilement accès à Internet ou à des livres ou autres chez eux, c'est très difficile, mais on peut essayer d'imaginer, de regarder le ciel, de regarder les nuages, de se poser des questions, on peut essayer de se projeter dans une sorte d'avenir, de se dire, tiens, moi j'aimerais ça, ça fait travailler l'imaginaire. Et puis, pour les personnes qui ont la chance d'avoir Internet à la maison, d'avoir accès à de la culture, faut pas hésiter à surfer, à ne pas regarder que des séries sur des grands sites de des grandes plateformes, mais d'aller chercher, tous les musées se sont mis à faire des musées virtuels, on peut écouter de la musique, on peut, tous les journaux, donc il y a plein de solutions grâce à Internet, ce qui est exceptionnel. Il n'y avait pas de crise de ce type-là avec Internet avant, c'était beaucoup plus difficile, donc il faut en profiter, vraiment.
Quand tout sera fini, est-ce que notre cerveau effacera tout ?
Non, assurément pas. Je dirais même que pour certaines personnes, alors on voit dans ce genre de crise-là que les traumas potentiels viennent plutôt après. C'est-à-dire qu'au moment où on a lutté pendant la crise, on a essayé de trouver des solutions, et puis tout d'un coup, il y a l'après. Et là, on réalise tout ce qu'on a peut-être souffert pour certaines personnes comme difficulté. Et là, il y a des traumas qui se créent, qui peuvent rester pérennes. Alors, ça ne veut pas dire que c'est des choses énormes, mais il va falloir faire très attention à tout le monde dans les mois qui viennent pour protéger les personnes qui ont le plus souffert de cette situation. Les personnes les plus fragiles, parce que ça peut rester à long terme et malheureusement devenir assez dangereux si on ne fait pas attention à ça.
Si certains de nos auditeurs veulent participer à votre étude, ils doivent faire quoi ? C'est encore possible ?
Alors c'est vraiment le dernier jour, parce qu'on a déjà presque 10 000 personnes qui sont rentrées, donc maintenant on va rentrer ce qu'on appelle le longitudinal, on va rester à long terme, mais en allant sur le site adaptationinstitute.com, adaptation-institute.com, ils ont l'étude qui est accessible aujourd'hui encore, et ça permet effectivement de... On a beaucoup de retours de gens qui nous disent, mais moi en participant à l'étude, ça m'a fait me poser plein de questions, ça m'a ouvert des idées, et puis finalement cette étude, on appelle ça une étude action, on a notamment lancé ce qui s'appelle Covid Out, si vous allez sur covidout.fr, ça vous permet d'avoir des vidéos, des autres questions, des réponses à vos demandes. Et du coup, ça vous permet de mieux vivre cette situation aussi.
Et je renvoie aussi au livre que vous avez sorti en novembre dernier, Explorer demain. Merci beaucoup, Christian Clos. Vous étiez en direct sur France Inter.